You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Donc je suis avec Monsieur Halil Hashimi Idrissi, qui est le directeur général de l'Alliance Maghreb Arabe Presse et également le président de la Fédération Atlantique des Agences Africaines de Presse et enfin président de l'Alliance des Agences de Presse Méditerranéenne et qui est actuellement en visite en Australie. Monsieur Hashimi, merci d'être avec nous sur les ondes de SBS en français.
Tout le plaisir est pour moi.
Alors, est-ce que tout d'abord, peut-être pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ?
Donc, je suis Halil Hashimi Idrissi, je suis le directeur général de l'agence marocaine de presse. Son nom exact, c'est Maghreb Arabe Presse. Je préside aux destinées de cette agence depuis 7 ans. Sinon, auparavant, j'étais un journaliste professionnel. J'ai dirigé des hebdomadaires et j'ai créé un quotidien au Maroc. Il m'est arrivé également de diriger la Fédération marocaine des éditeurs de journaux. Donc voilà, c'est toute une vie professionnelle dédiée à la presse.
Dédiée à la presse. Et donc, vous venez du Maroc. Vous avez étudié aussi en France, à Paris, à la Sorbonne.
Oui.
Vous avez touché au monde du journalisme assez tôt.
Absolument. J'ai l'habitude de dire que dès que j'avais fini avec les obligations universitaires, j'ai plongé dans le journalisme, domaine qui n'était pas étranger pour moi, puisque mon père lui-même était à la radio marocaine depuis l'indépendance. Donc c'est un milieu dans lequel j'ai vécu et qui, et naturellement, j'ai déployé ma vie professionnelle dans ce secteur.
Donc ce qui vous a donné cette envie de faire du journalisme, c'est votre père aussi. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre qui vous a poussé
une passion ? Curiosité personnelle, et un atavisme familial certainement. Mais surtout, cette possibilité de se rapprocher des faits et des gens, et de rapprocher les deux, souvent, c'est notre métier. Et qui s'est imposée, une idée qui s'est imposée comme celle qui va surdéterminer mon parcours professionnel.
Alors, pour ceux qui découvrent peut-être l'agence Maghreb Arabe Presse, la MAP donc, est-ce que c'est un peu comme l'AFP, l'agence France Presse, ou l'AAP ici en Australie ?
Absolument, c'est la même structure professionnelle, c'est des agences de presse publique qui, quand elles ne sont pas financées directement par le fonds public, ont en général les trois quarts de leurs clients qui dépendent du public. Donc l'un dans l'autre, on est dans la même configuration. Et c'est surtout le moyen qu'a les pouvoirs publics, l'État, le gouvernement, d'informer sur leurs activités et sur toute la production législative du pays.
Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de vos rôles en tant que président de la Fédération Atlantique des Agences Africaines de Presse et aussi en tant que président de l'Alliance des Agences de Presse Méditerranéenne ?
Alors, parlons d'abord de la FAPA, qui est quand même quelque chose dont on peut être fier aujourd'hui. Pouvoir organiser une trentaine d'agences de presse africaines, dont des rencontres de formation, des assemblées générales, des réunions de bureaux exécutifs. Pendant 4 ans, maintenant, c'est la durée de vie, enfin l'âge de la FAPA. Je lui souhaite une longue vie, bien évidemment. Pouvoir travailler dans ce cadre avec les agences africaines est quelque chose de très exaltant et de très, très gratifiant pour quelqu'un comme moi. La FAPA est une plateforme d'échange d'expériences entre pays africains. Donc c'est Sud-Sud. Et c'est l'échange d'expériences et en même temps une plateforme de formation pour les personnels de ces agences. Il faut savoir que les agences africaines n'ont pas toutes le même modèle institutionnel. À titre d'exemple, il y en a qui sont rattachés au Premier ministre, il y en a qui sont rattachés à la télévision, il y en a qui sont rattachés à la présidence de la République, il y en a qui sont rattachés au ministère de l'Information. Donc vous voyez, c'est un peu disparate comme statut. Et en fonction de la position dans les pays de ces agences, elles ont des rôles plus ou moins différents malgré la centralité de ce qu'elles partagent ensemble. Mmh. Donc nous, très tôt, on a développé une fonction de plaidoyer. plaidoyer de ces agences en direction des pouvoirs publics, basé sur deux aspects fondamentaux. Le premier, une contractualisation des rapports entre l'État et l'agence, ce qui permet de faire des plans triennaux ou sur 5 ans, quinquennaux. Le deuxième aspect, c'est de renforcer les capacités professionnelles des personnels en organisant régulièrement. Mais l'intérêt de tout ça, c'est des Africains qui parlent aux Africains, donc on est dans une logique vraiment très... Et qui dénote d'une volonté de dire qu'aujourd'hui, nous avons la vision, nous avons l'expérience, et nous voulons jouer un rôle plus important que par le passé, c'est-à-dire de transmettre uniquement l'information institutionnelle ou gouvernementale. Sachant que l'information s'est accélérée mondialement, l'Afrique subit souvent l'information des autres, l'Afrique est souvent analysée par les autres, l'Afrique est souvent commentée par les autres, devant des Africains qui regardent ça d'un air un peu étrange en disant « Tiens, il y a beaucoup d'intérêt, mais il y a pas mal, souvent, parfois, un éloignement par rapport à la vraie réalité, à la centralité des choses qui se passent dans les pays. Mmh. » Donc c'est une manière aussi de consolider une activité professionnelle autonome et qui permette de rapatrier ces fonctions d'analyse et de commentaires dont j'ai parlé. C'est extrêmement important. En même temps, nous avons une croissance rapide du journalisme citoyen, des blogueurs, de l'information sur le net, et on a cette tsunami de fake news qui, aujourd'hui, crée beaucoup de difficultés parce que les gens ne savent pas si l'information est vraie, recoupée ou pas vraie, fausse, etc. Donc, nous sommes utiles. Et ça, c'était une découverte pour nous tous, de dire non seulement aujourd'hui nous sommes utiles puisqu'on dit donne une information de qualité, vérifiée, recoupée, en tout cas sourcée, identifiée, il n'y a pas de leurre là-dedans. Donc, nous sommes utiles aujourd'hui et on s'est rendu compte que nous avons un avenir. Parce que, comme dans le monde numérique, on a pêché par beaucoup d'excès, par beaucoup d'approximations, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et on redécouvre que nous avons un avenir. C'est la bonne nouvelle de la journée.
Ouais. Quel est le but de votre visite aujourd'hui en Australie pour expliquer à nos éditeurs?
Je visite l'Australie aujourd'hui d'abord pour répondre à une invitation de nos confrères de l'agence de presse australienne avec laquelle nous allons signer une convention de partenariat qui échange les informations. Si nos confrères d'Australie veulent savoir ce qui se passe au Maroc, ils passent par notre agence, donc c'est déjà un raccourci au lieu de le prendre sur une agence internationale qui certainement dira sa vision du monde. Mais là, la vision des intéressés est présente. Nous allons pouvoir envoyer en Australie des journalistes faire des stages de découverte, voir c'est quoi ce pays continent absolument merveilleux, qui intrigue beaucoup, qui fouette les imaginations. Et permettre aussi à des Australiens de venir au Maroc, des journalistes australiens. Moi, je leur dis, venez un mois, ne venez pas une semaine, venez un mois. Vous aurez l'occasion d'aller à Casablanca, d'aller à Marrakech, d'aller à Agadir et de voir un peu comment la vie à Tanger, à Oujda, et de voir un peu comment se construit l'information dans ce pays et de saisir la vitalité dans ce domaine. Parce qu'il y a une vraie vitalité, une vraie dynamique aujourd'hui au Maroc, dans le secteur de la presse. Et au-delà de ça, profiter des expériences dans le multilinguisme, par exemple, de l'agence de presse australienne, ou des médias comme le vôtre, parce que je suis dans une institution qui attaque l'information par tous les bouts, par tous les vecteurs et par toutes les langues.
Ouais.
Tout ça, c'est très intéressant pour nous. Et c'est toujours bien de faire connaissance que de rester dans l'ignorance des uns et des autres. Donc mon voyage a d'abord cet objectif principal de créer des ponts et des liens avec les professionnels australiens. Je vais visiter des quotidiens, des journaux, de la presse écrite. Toute la presse est écrite tout le temps, mais la presse imprimée dit... Donc nous sommes dans une démarche d'échange et de partage. Voilà. Alors, vous avez posé la question, je n'ai pas répondu tout à l'heure, sur l'Alliance méditerranéenne des agences de presse.
Oui, exactement, l'Alliance des agences de presse méditerranéenne.
Alors, AMAN, dont je suis actuellement le président, pour quelques mois encore, puisque c'est une rotation entre les agences, est une alliance qui permet aux agences du Nord et du Sud de la Méditerranée de discuter entre elles. Ça prend souvent, ou parfois, la tournure de discussions entre des agences riches et des agences pauvres. Mais ce n'est pas très gratifiant tout ça. Mais en tout cas, des agences lourdes, avec des réseaux mondiaux, et des agences nationales avec des réseaux réduits. Mais le fait d'être dans ce cénacle, entre nous, et en discutant franchement, souvent, ça crée des liens, ça crée des dynamiques d'échange, et ça permet de comprendre davantage le souci des uns et des autres. J'ai découvert, en étant président de cette alliance, que la Méditerranée est une réalité concrète. Il y a des fausses idées qui tombent sur la Méditerranée, c'est-à-dire comme si une partie de la Méditerranée pouvait s'en tirer sans l'autre. Pas possible. La Méditerranée est un destin commun. Aujourd'hui, dans la problématique sur l'immigration qui est très mal posée, puisqu'on est uniquement sur l'aspect sécuritaire ou l'aspect de contrôle des flux, on parle de quantité de gens, etc. Et on ne parle pas de destin commun et de fatalité de ces échanges de personnes qui ont toujours existé. Maintenant, si un appel d'air dans une des rives de la Méditerranée, parce qu'il y a plus d'opulence, plus de croissance, plus de possibilités de construire une vie, le flux va monter vers le nord rapidement. S'il y a plus de développement, plus de croissance, plus d'éducation, plus de formation, encore une fois, au sud, il est clair que les gens vont se stabiliser, vont créer des projets de développement chez eux, etc. On ne peut pas penser l'immigration sans le co-développement. Et on ne peut pas penser la Méditerranée en disant, si je fais un mur au milieu de la Méditerranée, je vais vivre heureux, je vais être tranquille, je n'aurai pas de migrants. Regardez comment cette histoire de migrants, qui est un concept philosophique absolument, c'est-à-dire la liberté de circuler, il n'y a pas plus humain que la liberté d'aller et venir, est en train d'interroger un concept comme celui de l'Europe, violemment. La viabilité du concept Europe, du concept européen, est en train d'être interrogée par un phénomène comme celui de la migration. Comme si les pères fondateurs de l'Europe avaient oublié que la migration, les dynamiques migratoires, c'est ce qui font
c'est ce qui grands, a fait l'Europe.
Ce qui a fait l'Europe et qui fait les grands espaces d'échange humain. Voilà. Tout ça, on le discute dans l'agence, dans l'Alliance méditerranéenne de presse. Et on discute aussi de... Quand on fait des concours, par exemple, pour des photos ou des articles, en direction de tous les journalistes de ces agences, qu'est-ce qui se passe? Les sujets qui marchent le plus, qui attirent le plus l'attention, qui réveillent la conscience des gens le plus, souvent sont autour de ces questions de migration. Bien sûr, il y a la création, la créativité, il y a la femme dans cette région du monde, son avenir, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais la migration, qui est transversale comme sujet, a toujours un succès et il est toujours au centre de nos débats.
Est-ce qu'on peut revenir sur... On parlait de la presse au Maroc. Comment se porte la presse marocaine en ce moment?
Mal.
En général.
Mal. À l'instar de la presse dans le monde. Quand je dis la presse, je parle de la presse imprimée. Un monde qui est fini, celui des rotatives, de l'encre, des papiers, des kiosques et des vendeurs ambulants, etc. Tout ça se termine. Et le nouveau modèle, il n'y est pas encore. Un modèle économique disparaît, qui est en gros celui du 19e siècle, et le modèle du 21e siècle, qui sera fatalement numérique, mais qui n'est pas rémunérateur pour l'instant, qui ne peut pas faire vivre des entreprises de presse, qui ne peut pas donner à l'information tous les moyens financiers nécessaires pour qu'elle soit de qualité, c'est-à-dire vérifiée, recoupée, faite par des professionnels. Donc le Maroc est touché par... ce phénomène, si on ajoute un phénomène spécifique, mais qui lui aussi est international, malgré tout, la baisse des lecteurs sur le support papier. Les gens ont tendance à aller sur lire les nouvelles sur le support numérique. Plus grave encore, nous sommes aussi touchés par un phénomène extraordinaire qui est celui de la gratuité de la presse. Les gens veulent des news maintenant gratuites. Voilà, c'est la liberté, c'est Internet, etc. Mais rien n'est gratuit sur Internet, c'est un leurre. La vérité, c'est que celui qui encaisse a changé. Ce n'est plus l'éditeur qui fait le journal ou le journaliste qui travaille dans un journal et qui paye à la fin du mois. C'est souvent ceux qui agglomèrent l'information. Et souvent, ce sont les GAFA qui profitent de cette audience qui est attirée par l'information des autres. On a vu récemment, la semaine dernière en Europe, la signature d'une disposition légale qui va protéger davantage le droit des éditeurs, en termes de droit voisin. Et on a vu toute la douleur qu'il y a eu pour arracher ce droit des grands diffuseurs qui sont les GAFA, pour qu'on puisse rémunérer les éditeurs. Donc il y a ça au Maroc, et il y a la transition démocratique, l'évolution très rapide du pays vers davantage de liberté, davantage de droits de l'homme, davantage de construction d'espaces démocratiques, de l'émergence d'un pouvoir féminin, l'émergence de la femme, etc. Toute cette construction-là est accompagnée et faite par la presse, qui est un acteur central. Alors souvent, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est dans la nature de la fonction. Mais les garanties constitutionnelles qui ont été données par la Constitution de 2011 permettent sans conteste aujourd'hui de dire que nous avons un cadre juridique plus solide, plus construit que par le passé, et nous avons globalement une Constitution qui enracine sérieusement la liberté d'expression, les droits de l'homme, la parité, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., dans un cadre constitutionnel très sérieux. Maintenant, tout ça, il faut le faire, le consolider en fonction de la vie normale d'une nation, à savoir avec des contraintes économiques, souvent, avec des impatiences des uns et des autres, notamment celles des jeunes qui sont légitimes, avec des difficultés que l'on peut parfois rencontrer dans le domaine de l'enseignement, etc. C'est la vie, c'est l'histoire de la presse dans la vie ordinaire d'une nation. Voilà.
Alors, vous n'êtes pas qu'un grand journaliste, vous êtes aussi une personnalité au Maroc. Vous êtes également écrivain et poète. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces carrières qui sont un peu différentes, plus différentes ?
C'est toujours l'écriture. Hein. Moi, mon fil directeur, c'est l'écriture. D'ailleurs, je parle souvent de la joie d'écrire et de partager cette joie. Alors, l'écriture, il y a plusieurs sortes. Il y a l'écriture professionnelle, celle que nous pratiquons dans notre métier, qui a ses contraintes. Et qui est avec laquelle on vit, hein, puisqu'on est payé à la fin du mois en écrivant. C'est quand même merveilleux de pouvoir faire ce qu'on aime et être payé pour. J'ai toujours dit à ces jeunes journalistes, vous ne savez pas la chance que vous avez de pouvoir vivre de ce que vous aimez. Mais il y a des contraintes. L'information, le cadre institutionnel dans lequel on travaille, les lignes éditoriales des uns et des autres, quand on est dans des entreprises de presse qui ont des orientations bien définies, et la vérification de l'information, c'est-à-dire écrire du vrai. Mais écrire vrai n'empêche pas d'avoir le talent. Mais on peut commander des informations, on peut passer beaucoup de temps à faire un article, à faire une enquête, à faire un portrait. Mais ça, c'est des genres journalistiques qui sont des genres quasi-littéraires. Les conditions pour réussir un portrait en radio ou en presse écrite sont connues. Il faudrait qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait un parcours, qu'il y ait des révélations parfois quand on a affaire à un personnage qui est connu. Mais en tout cas, il faut que ça soit forcément humain et pour que ça puisse toucher le lecteur. Là, on n'est pas dans la rapidité, mais on est dans l'attention, dans l'écoute et dans la recherche d'une émotion installée chez le lecteur. Ça, c'est l'écriture. Donc, maintenant, si on rencontre dans ce parcours-là le talent, ben, ça devient formidable. Mais ça ne se commande pas. Et ce n'est pas ce qu'on attend de nous d'abord, on attend l'information. Maintenant, l'écriture poétique, quant à elle, elle obéit aux mêmes contraintes. Sauf que c'est une écriture entre soi et soi. C'est une écriture d'expression, de libération, je dis souvent, et une écriture qui permet d'approcher d'une manière esthétique des domaines de la vie qu'on ne touche pas forcément de la même manière quand on écrit, quand on est journaliste. Moi, j'ai alterné les deux tout le temps en m'aménageant des espaces entre moi et moi. C'est des moments souvent où il y a l'instant poétique, il y a un état poétique qui me permet de libérer ce que j'ai comme émotion et comme sensation et comme vision qui ne sont pas très exploitables dans le domaine de la presse.
Alors,
en tout cas, ou peut-être qui n'intéressent pas les lecteurs professionnels.
Dernière question, est-ce que vous avez une histoire, une anecdote à nous raconter qui vous a touché dans votre carrière de journaliste? Vous savez, en tant que journaliste, on cherche toujours cette histoire qui nous a un peu changé quelque part.
Moi, ce qui m'a toujours touché dans et qui m'a toujours, à ce jour, impacté dans mon métier de journaliste, c'est que souvent j'ai pris des prises de position à rebrousse-poil de la tendance générale. J'aime pas quand il y a consensus, quand il y a unanimité, etc. Un jour, un grand patron d'une entreprise publique a été limogé. Et c'était le moment où moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas beaucoup. C'était dans les années 90. Et j'ai fait un papier sur son parcours. Comme ça. Et qui était assez attentif à ce qu'il est devenu dans son secteur, c'est-à-dire des rapports de force, des hauts et des bas, etc. Et ça finit par un changement de... Et j'ai fait un papier qui a eu un impact sur la personne en question. Il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, moi, je ne vous connaissais pas. Vous n'étiez pas un abonné de mes assemblées générales. Vous n'êtes jamais venu me demander quoi que ce soit. Et vous avez fait le papier, celui que j'attendais. Alors que tous mes amis, et j'en connais beaucoup dans votre secteur, me sont tombés dessus. Je trouve que ce décalage qu'on peut avoir parfois peut être le sel de notre métier. Ça, je m'en suis souvent souvenu. Et d'être décalé comme ça, de ne pas aller avec la meute, entre guillemets, peut laisser des traces très gratifiantes dans la mémoire d'un journaliste et peut justifier par quoi ce à quoi on peut servir. C'est-à-dire le contre-pied, prendre les choses non pas dans la dynamique facile, mais d'aller apporter quelque chose. Quand vous m'avez posé la question, j'ai instantanément pensé à ce monsieur que je ne vois pas, que depuis très longtemps, mais j'ai pensé à ce moment-là.
Monsieur Hachimi, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans les studios de SBS.
Merci à vous et merci de m'avoir reçu.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.